Dans la pensée commune, qui dit Noé dit déluge. L'essentiel de ma prédication va tourner autour du sujet de la foi de Noé et relativement peu du déluge et du fameux bateau. N'en déplaise à Hollywood. Les chapitres 5 à 9 de la Genèse sont dédiés à Noé et au déluge. Le récit global forme un tout et je ne vais pas tout lire. Alors, durant ce message, plusieurs versets dans ces 5 chapitres seront regardés plus attentivement. Et pour vous aider dans le suivi, voici comment se découpe le récit. Le chapitre 5, c'est la généalogie d'Adam jusqu'à Noé. Le chapitre 6, les 13 premiers versets expliquent pourquoi le déluge et ce statut si particulier de Noé vis-à-vis de la destruction programmée. Étudierons ce passage en détail dans une première partie. Ensuite, du verset 14 du chapitre 6 au verset 19 du chapitre 8, c'est tout le récit de la préparation du bateau, le déluge, puis la sortie du bateau. Nous ne traiterons pas cette partie, je vous la laisse comme lecture chez vous pour les jours de pluie. Par contre, nous nous attarderons davantage sur la suite, c'est-à-dire du verset 20 du chapitre 8, au verset 17 du chapitre 9, et ça, c'est le récit de la nouvelle alliance entre Noé et l'Éternel. Elle est suivie du premier péché post-déluge pour ce qui est du reste du chapitre 9. Cet ensemble sera la seconde partie de mon message. En préambule et avant de rentrer dans l'étude des deux passages, quelques précisions sont les bienvenues. La généalogie du chapitre 5 fait le lien depuis Adam. Dieu avait donné l'ordre suivant à Adam et à Ève. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Et c'est ce qu'ils firent, car le chapitre 6 commence ainsi. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, il se poursuit, malheureusement, par « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. » À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors, l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Non seulement les hommes, mais jusqu'aux animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et jusqu'aux oiseaux du ciel, car je regrette. » Dans ces quelques versets, se sont écoulées 120 années qui n'ont pas du tout plu à l'Éternel. Il dit regretter d'avoir créé l'homme. Il décida donc de mettre son plan en exécution. C'est la destruction de toute vie humaine et animale. Mais nous ne serions pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un « mais » dans la décision divine. Verset 8. « Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. » Le déluge et le bateau des chapitres suivants sont les moyens que Dieu a utilisés pour détruire toute l'humanité sauf une famille, celle de Noé. Comprendre en partie la foi de Noé, c'est chercher à répondre aux questions suivantes. Pourquoi Noé échappe-t-il à la destruction de l'humanité? Quelles sont les conséquences pour la suite, pour l'après-déluge, et même pour aujourd'hui? Alors, après ce survol sur l'ensemble du récit de Noé, nous cherchons une réponse à ces questions dans la première des deux grandes parties de mon message. Noé, rescapé d'une destruction complète de l'humanité. Plus je réfléchis au moment où Dieu décide de détruire l'humanité, plus cela soulève de questions en moi. Pourquoi soudainement décider de créer l'humanité ? Dieu ne savait-il pas, dès Adam et Ève, que le cœur de l'homme était mauvais ? Quitte à détruire toute la descendance d'Adam et Ève, c'est-à-dire probablement un très grand nombre d'humains, pourquoi finalement sauver une famille ? S'il a pu créer l'humanité ex nihilo une première fois, pourquoi ne pas le refaire une seconde fois ? Et puis finalement, qu'est-ce que Noé avait de plus que les autres pour être sauvé ? Ça fait beaucoup de questions, et le texte n'explique pas tout, ne répond pas à tout. Il y a tout de même quelques indices qui peuvent nous aider à saisir ce que l'Éternel a souhaité faire comprendre d'une part à Noé et d'autre part à toute l'humanité qui a suivi. En effet, je crois que beaucoup d'actes de l'Éternel dans l'Ancien Testament sont faits à but pédagogique. Il me semble que le déluge, cet épisode tragique, comprenant le sauvetage de Noé, a aussi un but pédagogique. Regardons les indices que l'auteur de la Genèse nous donne pour justifier que Noé et sa famille soient sauvés. Au chapitre 6, les versets 5 à 8 sont les versets où tout bascule. C'est le passage que j'ai lu. Verset 5, la constatation. Trop, c'est trop, l'homme ne fait que le mal. Verset 6, c'est l'émotion. L'Éternel regrette d'avoir créé l'homme. Verset 7, la réaction. Dieu décide de détruire toute l'humanité. Et finalement, verset 8, la grâce. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Pourquoi ? Pourquoi cette grâce soudaine ? Ça, c'est le verset 9 qui nous dit pourquoi. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Pour nous confirmer que cette affirmation du verset 9 est bien en lien avec la grâce du verset 8, l'auteur reprend en écho dans les versets 11 à 13 tout ce qu'il vient de dire du verset 5 à 7. Au verset 8, la mention « mais Noé » fait écho à la mention « mais toi » au verset 14. La répétition est ici un bon moyen pédagogique. Nous comprenons qu'il s'agit d'un enseignement important. La description de la foi de Noé, la mention du fait que cet homme soit juste et irréprochable n'est pas là par hasard. Dans la généalogie du chapitre 5, un seul des ancêtres de Noé depuis Adam a reçu une telle mention. Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu pendant 300 ans et eut d'autres enfants. La durée totale de sa vie fut 365 ans, là où celle d'autres hommes de l'époque vivaient à peu près 900 ans. Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit avec lui, auprès de lui. Dans le cas de ces deux hommes, Enoch et Noé, leur foi est mentionnée comme excellente et ils furent mis à part pour être sauvés. Ce que nous devons en retenir, c'est que la foi de Noé est la seule chose qui est mentionnée pour justifier que par la grâce de l'Éternel, sa famille et lui échappent au déluge et à la mort. De plus, ces actes, les actes de Noé, n'interviendront pas dans la grâce accordée par Dieu. Les actes de Noé montrant sa foi sont cités plus tard, lors de la création du bateau. On les trouve au verset 22 du chapitre 6, au verset 5 du chapitre 7. Il est dit par deux fois que Noé obéit et fit tout comme Dieu lui avait ordonné. Au moment du jugement de l'humanité, Dieu a regardé le cœur de Noé. L'Éternel l'a sauvé au moyen de la foi de Noé. C'est un enseignement pour toutes les générations d'hommes et de femmes qui vont suivre. C'est le même principe aujourd'hui pour celles et ceux qui veulent croire en Jésus-Christ. Comme nous le verrons plus tard dans mon message, depuis le déluge, l'Éternel a promis de ne plus détruire à nouveau l'humanité. Toutefois, nous savons désormais qu'il y aura bien un autre jugement qui sera fait au retour de Jésus-Christ. La règle sera la même. Seule la foi en l'Éternel, et donc en Jésus-Christ, permettra d'échapper à la mort. Où est votre foi ? Êtes-vous conscient qu'aucun de vos actes ne remplacera une véritable foi en Christ au jour du jugement ? Dieu vous trouvera-t-il juste et irréprochable, comme Noé ? Sans la grâce du pardon de Jésus, j'en doute fort. De plus, si ce n'est pas par la foi que nous œuvrons pour Dieu durant ce temps d'attente du retour de Christ, cela ne sert à rien. L'Éternel n'a pas attendu que Noé veuille bien construire le bateau pour le déclarer juste. Nous venons de passer une semaine sur le chantier de notre nouveau bâtiment, et c'est une bonne chose. Et c'est du temps consacré à l'œuvre de l'Église. Toutefois, aucune des heures passées sur le chantier ne sera portée à notre crédit lors du jugement final. Seule une vraie foi en Jésus-Christ sera nécessaire et suffisante pour être déclarée juste et irréprochable. Où est ma foi ? Est-ce que comme Noé, je conduis ma vie sous le regard de Dieu ? Je vous laisse réfléchir à la réponse et nous rentrons dans la seconde partie de mon message. C'est l'héritage d'Adam. On prend les mêmes et on recommence. Selon vous, selon votre lecture du récit, considériez-vous que Noé est un super-héros de la foi ? Aussi, pouvons-nous penser que si Dieu a décidé de recréer l'humanité à partir de sa famille, elle vaut mieux que le couple originel Adam et Ève ? Nous avançons quelque peu dans le récit pour étudier ces questions. Nous laissons l'épisode pluvieux de côté et arrivons à la sortie du bateau, au verset 16 du chapitre 8. Notre sous-passage s'étendra jusqu'à la mort de Noé, à la fin du chapitre 9. Il y a trois choses que nous observons dans ce texte. Nous allons voir les échos avec la création et le nouveau premier péché. Pour chacun, après chaque observation, je pointerai du doigt l'essentiel. En première lecture, ce qui nous étonne dans ce passage, c'est le nombre d'échos de références à la création. Tout d'abord, quelques versets. Pour le règne animal, l'Éternel dit « Fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux, les bêtes qui se meuvent hors terre et qu'ils s'y reproduisent et se multiplient. » Pour le règne humain, l'Éternel dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. » Dieu reprend à quelques nuances près les mêmes ordres qu'il avait donnés à la création dans les deux premiers chapitres de la Genèse. Toujours à propos des échos à la création, nous avons une alliance renouvelée. Elle s'établit entre Dieu et Noé, sa famille et toute sa descendance. Nous aussi. Les termes en sont donnés dans le chapitre 9. Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi qu'avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, oiseaux, bétail et bêtes sauvages, tous ceux qui sont sortis du bateau avec vous, tous les animaux de la terre. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux du déluge, il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. L'Éternel dit cela après s'être dit en son cœur à la fin du chapitre 8. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Cela veut donc dire qu'après le déluge, jusqu'au retour de Christ, l'humanité ne sera pas jugée. Nous sommes actuellement, et depuis un bail maintenant, dans un temps d'attente, pendant lequel nous sommes invités à réfléchir à notre foi, à Jésus-Christ. À propos de cette alliance conclue entre la descendance de Noé et l'Éternel, vous noterez que, bien que ce texte soit dans l'Ancien Testament, l'alliance par Abraham, qui est le fil rouge de tout ce qui reste de l'Ancien Testament, n'est pas encore arrivée. Elle est effective au chapitre 12. Pour une fois, cette alliance conclue entre Noé et l'Éternel arrive à nous en direct, sans passer par le canal Abraham, Exode, Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse. Ces échos à la création nous montrent que l'Éternel donne le top départ pour le redémarrage de la création. C'est une alliance renouvelée et inchangée qui se met en place. À notre niveau, des milliers d'années plus tard, nous pourrions nous dire qu'hériter d'une alliance par Adam ou par Noé, ne change pas grand-chose. Et pourtant, il y a une chose qui a changé. Dans cette nouvelle création, Dieu admet que le cœur de l'homme est mauvais et qu'à cause de ce constat, il ne détruira plus l'humanité comme il vient de le faire. L'Éternel fait alliance avec l'homme malgré le péché qui est en lui. Je répète, l'Éternel fait alliance avec l'homme malgré le péché qui est en lui. Jésus est la clé qui permet de réconcilier le péché de l'homme et une création sans péché souhaitée par Dieu. L'apôtre Jean dira de Jésus dans le premier chapitre de son évangile « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus ôte le péché du monde. Avec Jésus, la création est comme Dieu l'aurait souhaité. Voici pour ce premier point sur les échos avec la création. Ce sont les ordres que Dieu avait donnés à Adam et dont Noé se retrouve à son tour dépositaire. En second point, notez que la famille de Noé a sa propre version de ce que nous appelons parfois la chute. Nous lisons dès le verset 20 du chapitre 9. Noé se mit à cultiver la terre et il y planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit son père nu et sortit le raconter à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent à reculons vers leur père et le couvrirent. Comme leur visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé se réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus jeune fils avait fait. Alors il s'écria « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères !» Voici donc le récit du premier péché post-déluge. Et puisqu'il fallait bien que quelqu'un fasse le premier faux pas, c'est Cham, le fils de Noé, le père de Canaan, qui s'y colle. Dans ce premier péché, dans ce récit, nous pourrions nous demander si c'est Noé qui a péché. L'Écriture n'est pas claire sur ce point et se concentre vraiment sur la faute de Cham. Quelques arguments viennent faire penser que Noé n'a pas péché. La nudité n'est pas un péché en soi. Avant la chute d'Adam, ils étaient nus. Dieu a créé les hommes nus. En plus, Noé était sous sa tente. Ainsi, sa nudité n'était pas une occasion de chute pour ses fils. L'ivresse, par contre, pourrait être vue dans une lecture légaliste comme un péché. Mais la parole, à ce moment-là, n'en dit rien. Assurément, ce n'est pas glorieux. Si nous lisons dans le Nouveau Testament que les chrétiens, eux, sont encouragés à avoir de la maîtrise de soi. Mais effectivement, dans notre récit, aucune marque de jugement n'est présente à ce sujet. Par contre, une théorie intéressante du péché en question est le fait que Cham soit rentré dans la tente de son père et surtout qu'il soit venu raconter l'état de faiblesse de Noé à ses frères. La réaction de ses frères vient appuyer cette théorie. Ils viennent à reculons couvrir la nudité de leur père sans poser leur regard sur lui. Il est précisé que ainsi, ils ne virent pas la nudité de leur père. Ce geste est cité positivement à leur crédit par la bénédiction que Noé leur donne. De son côté, Cham recevra une malédiction qui sera mise en application bien plus tard quand le peuple hébreu, au retour d'Exode, viendra prendre possession avec violence du pays de Canaan. Ce récit du péché de Cham est, à mon sens, une démonstration concrète que Dieu avait raison de dire que le cœur de l'homme est pécheur. Ce nouveau départ n'est pas meilleur que le précédent, où Adam et Ève avaient désobéi à l'Éternel. Un petit mot à propos du prénom de Noé. Cela veut dire consolateur. Son père l'avait appelé ainsi en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Vraiment, le déluge n'est pas une consolation. C'est même plutôt l'inverse. Par contre, l'engagement que l'Éternel prendra à la suite du déluge est une bonne promesse. L'Éternel fait œuvre de patience en ne détruisant plus les hommes pour le mal qu'ils font. En synthèse de ces trois observations, nous comprenons que Noé est clairement un type d'Adam. On retrouve la même alliance avec Dieu, le même héritage sur l'humanité, la même manifestation du péché. La différence est flagrante. Dieu a pleinement conscience du péché dans le cœur de l'homme et promet pourtant de ne plus tout détruire. Là où Adam avait été chassé du paradis terrestre, le jardin d'Éden, le péché de Cham ne change rien à la donne. L'humanité recommence avec Noé et l'alliance entre Dieu et les hommes n'est pas compromise à cause du péché. Elle est au-dessus de ça, cette alliance. Je trouve génial de penser qu'avec Noé, l'Éternel avait déjà en ligne de mire Jésus-Christ. Je m'explique. Dieu promet de ne plus détruire l'humanité. Il ne détruira plus l'homme, même si l'homme fait le mal. Il ne le détruira plus, car c'est le cœur de l'homme qui est pécheur. Du coup, une fois qu'il a dit ça, une période de patience commence. L'Éternel, de son côté, désire une création sans péché. Il va donc patienter jusqu'à la fin des temps, moment où Christ reviendra pour ôter le péché du monde, comme le dit Jean dans son évangile. Nous sommes actuellement dans le temps de patience. L'Éternel est patient, car même s'il a pleinement conscience de notre péché, nous ne sommes pas encore jugés. Pendant ce temps, nous sommes appelés à conduire avec foi notre vie sous le regard de Dieu, comme Noé l'avait fait. Mais alors, si le péché n'est pas un point de blocage dans notre relation avec l'Éternel, qu'est-ce qui nous freine autant pour avoir une relation dynamique et vivante avec lui? C'est la foi de Noé que l'Éternel a citée juste après avoir accordé à sa famille de survivre au déluge. Mais sa famille n'est pas exempte de péché. Cham l'a démontré. Chacun d'entre nous, croyant ou non, est héritier de ça. Je suis sûr que ce que cherche Dieu en chacun de nous, c'est une foi vivante, une foi qui donne envie, une foi dont on pourra dire que cette personne vivait sous le regard de Dieu. Prenons une illustration de la vie quotidienne pour voir ça sous un autre angle. L'obsolescence programmée est une méthode utilisée par les industriels pour donner une durée de vie limitée à des produits de la vie courante. Et oui, comme l'a déclaré l'Éternel, le cœur de l'homme est mauvais. Donc, vous avez acheté un four il y a environ 10 ans. Depuis quelques mois, il montre clairement des signes de faiblesse. Le gris ne fonctionne plus, les voyants s'allument quand ils le souhaitent et le minuteur ne minute plus. Pourtant, ce four, il vous plaît bien. Vous y êtes habitué, facile d'utilisation, bonne répartition de la chaleur. Bref, ça, c'est un bon four. En magasin, vous voyez qu'il est toujours commercialisé 10 ans après. Vous décidez de le reprendre quand même. Vous pensez que dans 10 ans, il n'aura pas les mêmes problèmes? Dieu nous aime malgré nos faiblesses, à nous aussi. Si ce qui vous a convaincu dans ce four, ce sont des qualités d'utilisation et de cuisson, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est notre foi. Concluons. Et si Adam et Ève n'avaient pas mangé du fruit défendu? Et si Cham avait recouvert son père plutôt que de le raconter à ses frères? Et si je ne m'étais pas mis en colère contre mon prochain? Il en faudrait un paquet de si, pour que le péché ne soit jamais rentré dans la création. Nous vivons dans une création voulue par Dieu à deux reprises, et l'Éternel nous accepte et nous aime malgré notre cœur qui est pécheur. Pourtant, la destruction par le déluge montre que le péché n'est clairement pas voulu par Dieu. en tant qu'héritier de l'alliance par Noé et par Jésus-Christ, nous sommes appelés à rechercher une foi qui fasse plaisir à Dieu. Comment y parvenir? Le récit de Noé ne le dit pas. Par contre, nous allons passer 30 jours, 28 maintenant, sur cette question. Et ma prière, c'est que chacun de ceux qui vont prendre ce temps et lire le livre, faire confiance au Seigneur, vont trouver de quoi dynamiser leur foi.